deux, c'est mieux, avec Luc Denoncourt et son invité, sur les ondes de CJSO 101.7 FM.
On est à deux, c'est mieux, à la Bouffetifaille. C'est un habitué, il connaît le menu de la Bouffetifaille. Steve Veilleux, salut.
Monsieur Denoncourt, mes hommages.
Mes hommages également, comment ça va?
Ça va super bien, merci.
20 ans. De Caen. D'abord, ça te fait quoi de réaliser qu'il y a déjà 20 ans de passé depuis la création de ce groupe-là?
Ça me fait réaliser que j'en ai 40 et que donc j'ai passé la moitié de ma vie dans le même band, ce que je n'aurais jamais pensé possible au début. Tu sais, quand tu fondes un groupe de musique, tu te rends pas à penser à aussi loin que ça.
La moyenne, c'est 2 disques.
Ouais, je sais pas c'est quoi la moyenne, mais ça doit pas être 20 ans, ouais. Puis tu sais jamais la portée d'une chanson, là, ce que tu vas laisser comme trace derrière. Je fais ce métier-là avec énormément de reconnaissance.
C'est quoi le chakra de 20 ans, justement? Je disais qu'il y a des bands qui durent pas. Il y en a qui se séparent, mais qui reviennent ensemble plus tard. Ouais. Aussi, il y en a plein de bands comme ça présentement qui font des revivals et des retours. Ouais. Mais vous autres, c'est quoi le secret de 20 ans? Il y a 2 membres qui sont encore là depuis le début.
Oui, moi et Eric, ouais, exact. La passion. L'acharnement, l'entêtement, nous autres, c'est cliché, mais si tu fais ce que tu aimes vraiment viscéralement, tu ne travailles jamais. Donc, tu comptes pas les heures à faire ce que tu aimes, puis les gens te le redonnent fois 1000 de toutes les façons. Donc, c'est d'être honnête envers ce que tu fais, respectueux aussi de ce que tu fais comme métier, avec les gens qui te permettent de le faire. Et puis, parce que la passion, jamais, c'est jamais effrité en 20 ans. Il y a eu dans ces années-là plein de victoires, plein de tempêtes, mais jamais la passion a été touchée. Puis c'est la seule vraie vérité qui fait en sorte que maintenant, on ne voit plus la fin de ce projet-là parce qu'on ne voit que des possibilités nouvelles. Oui, de par les changements qu'on a faits à l'interne, puis dans la bonne humeur, dans la sérénité dans laquelle on patauge, on veut plus, on parle plus jamais de fin. C'est les gens qui décideront bien, tu sais.
C'est le premier album enregistré avec cette nouvelle formation-là. Parce ouais. que l'album précédent, c'était l'ancien band, on ouais, peut dire ouais. ça, qui était là. Ouais. Là, c'est le trio de Caen actuel. Qu'est-ce que ça a changé dans la préparation de ce disque-là?
Écoute, ça, d'un bout à l'autre, ça a changé premièrement parce que John qui nous complète, John Anthony qui est le guitariste, et notre batteur et notre claviériste de tournée, qui sont toujours les mêmes, on a tous rentré en studio. Donc, les références musicales ne sont pas les mêmes. Ça nous a actualisé beaucoup la chose. Je pense qu'on a ajouté un certain 2.0 dans les arrangements au son de Caen. Les références musicales, l'école musicale n'est pas la même. Même si on se rejoint beaucoup dans un... On se rencontre dans le noyau très country de la chose. Moi, c'est mon école de musique. J'ai toujours écouté beaucoup de musique country. Puis John aussi, puis notre batteur claviériste. Donc, ça nous a amené de nouvelles, un vent de fraîcheur. Et puis, ça nous a complètement... On a exploré les avenues où on n'était pas encore allé. Ça nous a rafraîchi la sauce aussi. Puis, je pense, complémentarisé avec moi et Eric, de par notre expérience, de par la cohérence qu'on a développée ensemble, ça donne un album qu'on n'aurait pas pu écrire ou arranger, même ne serait-ce que v'là 2 ans. T'sais.
L'assumez-vous plus, le country, maintenant? Il y a 20 ans, il ne fallait pas dire qu'on faisait de la country. Les radios n'embarquaient pas ça.
Mais je l'ai toujours dit haut et fort. Mes origines, mes influences musicales, ouais. parce que j'ai été élevé à grands coups de Willie Nelson, puis de Johnny Cash, puis de Marcel Martel. Pis, par contre, tu fais un band, tu fais des compromis de band aussi. C'était plus difficile, peut-être, dans la mouture numéro 1.
Il y a 20 ans aussi.
Ouais, exact. Quoique, si tu écoutes tous les albums de Caen, il y a un noyau folk, un noyau country qui est là. T'sais. Dans l'instrumentation, dans les textes aussi, qui prennent beaucoup l'authenticité, ce que la musique country fait à tour de bras. Mais oui, c'est plus assumé parce que à l'interne, on avait enfin la même école et donc le même désir d'aller dans cette avenue-là assumée à 100%.
C'est vous autres qui assurez la réalisation du disque aussi?
Ouais.
Pourquoi vous avez voulu le faire vous-même et non pas avoir un espèce de regard extérieur?
Ben, il n'y a plus personne qui veut travailler avec nous autres. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est la première fois. On était rendu là. On voulait pas, puis je veux pas que ça sonne prétentieux, mais c'était 20 ans de vie. C'était difficile de mettre ces 20 ans-là dans les mains de quelqu'un à l'externe. C'était important que ça nous ressemble en tout point. D'autant plus qu'il y avait des invités. On a reçu 9 invités sur l'album. On voulait les diriger, on voulait colorer les chansons dans leur univers à eux autres. On savait exactement ce qu'on voulait. La nouvelle mouture du band avec ses avenues musicales, ses possibilités musicales nous le permettaient aussi. Puis toute l'expérience qu'on a ramassée dans ces 20 années-là ont fait en sorte que ça a été assez naturel de décider de réaliser l'album.
C'est un album double.
Ouais.
Dans un marché où les disques ne se vendent plus ou beaucoup moins, ouais. Est-ce que c'était risqué de lancer un double?
Ah, complètement. C'était contre-courant. C'est pas, ça a été fait pour bon, un album. Maintenant, c'est quasiment devenu une carte de visite pour partir en tournée. Un album, c'est plus que c'était dans l'industrie du disque, du moins. Donc, de faire un album double, c'est certainement audacieux. Mais il n'était pas question de... On était trop fiers de nos 20 années, puis... On a encore trop de choses à dire pour se limiter à un EP ou à quelque chose qui ne nous ressemble pas. Puis c'était la belle occasion de recevoir les artistes qui nous ont beaucoup teintés de par leurs plumes ou les amis qu'on s'est fait dans ces 20 années-là. Donc, je pense que c'est bien représentatif des têtes de cochon qu'on est. Là.
Mais quand le country, c'est une de nos influences, quand on a grandi avec les influences que tu as nommées tout à l'heure et que Paul Daresch et René Martel... sont sur notre album, ouais. C'est un cadeau. Ça.
Ah, c'est qu'on a pleuré nos vies en studio, sincèrement. Paul Daresch, René Martel ou Yves Lambert ont marqué...
Faulkner.
Faulkner, c'est une de mes idoles d'auteur-compositeur, mais pour ce qui est de Paul ou de René, c'est la trame sonore de mon enfance, carrément. Puis c'était beau de les voir venir en studio puis de chanter des chansons comme si c'était les leurs, de mettre du cœur, du sérieux, de l'attention, de la minution là-dedans. Ça a été touchant d'un bout à l'autre. On a autant ri que pleuré, que c'était un trip d'une carrière. Ça valait la peine juste pour ça, de s'endurer pendant 20 ans.
C'était quoi le premier des deux projets ou c'était un double dès le départ?
Double dès le départ.
OK, OK.
Ouais. J'aime pas écrire en sachant pas trop où est-ce que ça va m'amener. Quand le titre aussi, le « Je viens d'ici », c'était important. C'est la ligne qui représentait le mieux Caïn, je pense, de par la fierté de nos souches. Le joual, notre joual, notre langue qu'on a toujours clamée haut et fort, notre fierté d'appartenance. Donc, j'avais le titre bien en tête, là, « Je viens d'ici », les invités aussi, les 20 chansons pour les 20 ans. C'était assez clair depuis le début.
Et comment on a fait le choix des invités?
Assez naturellement aussi, je te dirais. On voulait qu'il y ait un regard, on voulait les artistes desquels on s'est inspiré, on voulait qu'il y ait un regard en avant aussi, comme deux frères ou Matt Lang. On grandit en écoutant notre musique. Fait que c'était
quelque
important. Ouais. Fait que c'était important qu'il y ait un regard en avant, quand c'est pas seulement un regard nostalgique. C'était important qu'il y ait des nouvelles chansons d'abord et avant tout. Ouais. Le nouveau show, ça va être des nouvelles chansons. Ça sera pas. Comme tu l'as dit, on n'a jamais pris de break. C'est pas un retour. Caïn n'a jamais arrêté. On voulait pas faire une compilation de succès puis partir en tournée avec des vieilles chansons. C'était. Mais le choix des invités, c'est ça. C'est important pour nous qu'il y ait un regard à l'avant aussi. Puis c'est tous des gens, c'est soit les amis ou des gens qui nous ont influencés beaucoup. Là. C'est fait rapidement.
Et ils sont à leur sauce à eux.
Ouais.
C'est pas du Caïn chanté par d'autres artistes et que ça sonne comme Caïn. Ça sonne
teinté
de chaque invité qui vient faire un tour.
Ben merci, c'était vraiment le but du projet. On voulait que Faulkner sonne comme Faulkner. On voulait que. Matt Lang sonne comme Matt Lang, que Laurent Jalbert qui a fait une version vraiment touchante de Je veillerai sur vous. On voulait laisser beaucoup, beaucoup de place aux voix, aux couleurs de nos invités. Puis on a réarrangé, épuré complètement les chansons pour leur laisser toute la place. Je voulais pas que ce soit un album de duo aussi. Il y en a tellement, je voulais leur laisser toute la place. Je fais des petites apparitions, mais c'est très épuré.
Il y a eu un podcast avec tout ça en plus.
Oui.
Comment est arrivée d'abord l'idée de dire on va faire un show de radio en balado-diffusion, d'anecdotes?
Ouais, en fait, on compte souvent, tu sais, ça fait 20 ans, fait que des anecdotes de rock'n'roll, on en a ramassé quelques-unes.
Est-ce que John était écœuré?
Non, moi, oui.
Parce que lui, il les a tout entendus.
Ouais, mais John, il est encore nouveau, fait qu'il il trouve drôle encore. Ouais, mais on s'est rendu compte que quand on se raconte nos anecdotes, on se rappelle des souvenirs. Tout le monde autour est bien intrigué de ça. Bon, tout le monde rit beaucoup. Fait qu'on s'est dit, bon, pourquoi pas? Puis j'écoute beaucoup de podcasts pour ma part. Puis je suis un grand consommateur de podcasts. Puis à un moment donné, je dis, hey, on devrait... Tout le monde veut les savoir, l'envers du décor, puis les coulisses, ça intrigue tout le monde. Puis on en a rencontré beaucoup d'artistes, puis on a entendu, en plus des nôtres, beaucoup d'histoires. Fait que pourquoi pas, une fois par mois, le faire devant le public, où on invite quelqu'un qui vient nous raconter ses histoires de coulisses, puis on peut joindre les nôtres, puis on fait ça informellement autour d'une bière. C'est bien, on rigole beaucoup avec ça. Là.
Qui est allé jusqu'à présent?
Jusqu'à maintenant, c'est tout nouveau. On a eu Martin Deschamps, deux frères, Guillaume Latendresse, où on a eu des histoires de coulisses de la Ligue nationale.
Ouais.
Et puis là, pour le 29 janvier prochain, ça va être François-Jean et Jean-François Dubé, de Noir Silence.
Et François-Jean
des bébés, oui, exact.
Donc, tu as des anecdotes de groupe, justement?
Ah, d'un peu tout. Je te dirais qu'il n'y a pas vraiment de censure. C'est la liberté que les podcasts amènent. Fait que, ouais, c'est 18 ans et plus.
Vous faites ça dans un bar à Drummondville?
Oui, dans un pub qui s'appelle la Brasserie L'Établi, la Brasserie Urbaine L'Établi. Puis il y a peut-être une centaine de personnes. Là. C'est une atmosphère de cabaret, vraiment. Okay. Puis si, ouais, c'est un bien beau projet.
L'album Je viens d'ici a été lancé au Lion d'Or.
Ouais.
C'était comment cette journée-là pour vous autres?
Ben,
c'était stressant? Est-ce que c'est encore stressant le lancement?
Oui, parce que le Lion d'Or, c'est comme notre embryon. C'est les premiers shows qu'on a faits à Montréal. Ça a été un Lion d'Or, deux, trois, quatre, cinq, six. Finalement, on le faisait aux deux minutes à peu près. Puis c'est là que ça a commencé. Fait que pour nous autres, c'est là que tout a parti à Montréal. C'était important pour le 20e que le lancement se passe là. Fait que pour ça, oui, ça l'amenait cet engouement-là, cette fébrilité-là. Puis en plus, le lancement était assez particulier. C'est Laurence Jalbert qui commençait le lancement, enchaîné par deux frères. Donc c'était assez... c'était un moment privilégié, vraiment. Je voulais vraiment que tout se passe bien. Puis c'est nous qui clôturions les chansons avec une espèce de get-together sur Embarque ma belle, où Paul Darèche-Matelin sont venus nous rejoindre. Donc c'était un super beau lancement, vraiment... Fait que oui, pour répondre à ta question, c'est encore excitant parce que tu veux que tout se passe bien puis tu veux mettre la table de la bonne façon. Je veux pas. Le lancement, c'est le jour 1 d'un nouveau projet. Ce projet-là, on l'a réalisé. On y a mis du cœur d'un bout à l'autre. Fait que c'est certain qu'on voulait que ça se passe bien.
Comment s'est passée l'écriture de ce disque-là pour toi? C'est toi qui écris en grande partie les chansons du
coup? Ouais. Très bien. Comme j'avais le thème, j'avais le projet très clair au début, ça s'est bien passé pour la première fois. Je suis parti de chez moi. J'ai toujours dit, moi, souvent dans les shows à la blague, j'ai dit, c'est pas comme on pense écrire des chansons. Au Québec, on pense que les artistes se louent un chalet dans le Nord, puis luxueux dans le Nord, ils vont écrire avec des plumes de l'encre et du vin rouge, puis qu'ils passent deux mois attendant l'inspiration divine. Alors que c'est pas comme ça, t'écris ça
entre l'épicerie.
Ouais, c'est ça que les enfants qui te demandent quoi faire, puis c'est vrai que c'est comme ça. Puis c'est la vraie vie qui est la plus inspirante, les rencontres que tu fais. Par contre, cette fois-là, en plus de ça, j'ai pu vraiment partir une couple de jours en retraite fermée pour me consacrer totalement à l'écriture. J'ai adoré l'expérience. J'ai pu... les deux, trois dernières chansons se sont écrites vraiment toutes seules, retraitées dans le bois complètement. Puis ça l'a apporté des belles avenues. Ça l'a apporté l'écriture, les chansons qu'on a. Parce que moi, j'ai toujours fait en mode très ermite, très sauvage. C'est difficile d'écrire avec quelqu'un d'autre, de s'ouvrir la bulle, puis commencer à argumenter sur quelle ligne. C'est difficile. Je veux jamais que ça soit cérébral d'écrire, même si ça prend quelques neurones. J'essaie de le collecter sur mon cœur le plus possible. J'essaie que ça soit organique et non cérébral. Donc, c'est pour ça que je le fais tout seul.
Mais le fait d'avoir pris ces quelques jours-là en retrait, est-ce que c'était vertigineux au départ? Parce que quand on arrive là... Il y a toi, des instruments de musique, puis une feuille de papier. Là.
Absolument, mais c'était, écoute, c'est des amis qui m'ont passé un super beau chalet, puis je me suis installé, j'avais amené toutes mes guitares, tout ça, je me suis fait un setup comme j'en rêvais depuis longtemps. Puis c'était la grosse hiver dehors, là, c'était rough, fait que j'avais comme pas le choix de me consacrer.
Ça tentait pas d'aller dehors.
Non, j'avais pas le choix d'être discipliné. Puis ça a pris, on dirait que ça fait... J'ai toujours rêvé de faire ça. Fait que la minute que j'ai commencé, il y a une chanson qui est arrivée. Ça fait que quand la roue commence, après, souvent quand il y a une chanson qui vient, on en attire d'autres. Parce que là, si t'es bien, t'écris quelque chose de bon. T'sais, quand on prend soin de soi, on attire des bonnes choses, on attire des bonnes personnes. Fait que écrire, quand c'est tout en phase, quand t'es bien dans ta peau, tu vas bien écrire. Une chanson va rarement arriver seule. Donc ça s'est passé un peu comme ça. Puis je vais la refaire, c'est certain.
Mais une fois que tu arrives avec les chansons écrites, faut que tu les proposes aux gars. C'est un band, ouais. J'imagine. Il y a un processus de faut être d'accord.
Je les envoie, il y a 10 nouvelles chansons, mais il y en a peut-être une vingtaine d'écrites. Okay. Éric en a apporté une coupe aussi. Fait que après, les maquettes, guitares, voix sont envoyées aux boys. Puis la sélection se fait assez naturellement. T'sais, c'est assez flagrant, les chansons qu'on va choisir de prendre. Des fois, on va en garder 12. 13, puis on va en recouper 2-3 autres après les arrangements.
Quand c'est un band de party, on le sait, dans les textes, il y a souvent ça qui revient.
Ouais.
Est-ce que c'est clair dès le départ qu'il y aura toujours des chansons comme ça ou ça sort comme ça?
Je pense que oui. La mission festive, rassembleuse, pour moi, est vraiment importante. J'ai fait deux albums solo par le passé qui étaient complètement à gauche de Cain, qui étaient à autre chose, où j'ai pu jouer avec d'autres mondes, toucher à d'autres choses, écrire plus une forme de poésie qui n'est pas propre nécessairement à Caïn. Mais Caïn, le noyau dur de ça, c'est une musique festive. Je veux que les gens viennent toujours voir un show de Caïn en se mettant le cerveau à off, en faisant la fête, en prenant un petit coup, en s'amusant. Puis maintenant, on voit les enfants avec, venir avec leurs parents. C'est rassembleur. Puis je veux toujours qu'on garde ce côté-là. On s'en fait une fierté et un devoir.
Et à l'inverse, est-ce qu'il faut garder aussi des textes plus touchants, par exemple?
Ben, je pense que c'est toujours là. Un n'empêche pas l'autre. C'est le fait qu'il y ait dans un show La Bonne Franquette ou La Nuit Gronde n'empêche pas que, comme dans le temps, on va toucher les gens tout autant. T'sais. Donc, je pense que les deux avenues sont bien présentes.
20 ans, c'est évidemment beaucoup de témoignages du public suite à des chansons qui les ont marqués, qui les ont touchés, qui les ont accompagnés mm-hmm. dans des moments de leur vie. C'est comment ça quand ça arrive?
C'est toujours assez stupéfiant d'entendre les histoires derrière les chansons. Comme je l'ai dit tantôt, tu sais jamais où une chanson va se rendre, puis comment va être interprétée. Donc, les histoires de baptême, de naissance, de relations, de mariage, de séparation, d'accident même parfois, on en a entendu énormément. Puis à chaque fois, ça nous scie d'entendre ça. Puis de voir qu'on est encore dans l'histoire des gens. Parce que avec des chansons que tu écris, tu rentres dans les histoires, tu fais partie de l'histoire des gens. Et c'est ce qui est le plus touchant et le plus surprenant. Puis de voir qu'encore 20 ans plus tard, ça se passe encore, c'est toujours bien, bien touchant.
Est-ce qu'il faut encore qu'un projet se tienne? On parle d'un album double, donc il y a un projet concret, mais maintenant, on n'écoute plus la musique comme ça. On écoute ça
c'est vrai.
Peu mélangé.
Hélas, ouais.
À travers d'autres artistes, là, c'est des playlists sur les différentes plateformes. Mais est-ce qu'il faut encore faire des projets comme artiste? Projets qui se tiennent du début jusqu'à la fin, puis s'écoutent comme un vinyle à l'époque.
Non, absolument. Tu vas retrouver sur scène une cohérence, une direction artistique importante. Il faut que tu l'aies sur l'album, même si les gens le consomment différemment. Pour moi, c'est important que chaque morceau s'emboîte bien. Écouter un album, c'est comme faire un voyage. Là. Tu le fais de par les shows. Faut que tu donnes ce mal-là, puis cette recherche-là, ce travail artistique-là, quand tu entends studio. Ne serait-ce que de faire un album, c'est devenu un privilège. C'est important de le respecter.
Puisqu'on parle des 20 ans de Caïn, puisqu'on parle d'anecdotes, Caïn, il y a 20 ans, ça a commencé comment?
Oh, ça a commencé, c'est pas très original, dans le sous-sol des parents d'un des gars. Souvent l'autre dans le garage.
Comme beaucoup
de bandes. Exact. En fait, on avait beaucoup de bandes à Drummondville que Caïn est venu au monde. Et, tu sais, il faut être entêté énormément dans ce milieu-là, comme dans bien d'autres, là. Je pense que l'entêtement est souvent l'ingrédient du succès, peu importe la sauce sur laquelle tu cuisines. Et puis, à force d'être entêté, on a fini par atterrir les quatre plus entêtés qu'on avait chacun nos bands respectifs pour juste un jam comme ça, pour le fun. Puis on s'est rendu compte que ça se passait. Donc, c'était un son qui était beaucoup plus éclectique, beaucoup plus rock. À l'époque, on cherchait une identité musicale. Ça vient pas au monde comme ça, là. Et à force de répéter, de se trouver, d'oser, de prendre des chances, ben on a formé la mouture originale du band en 2000. Et puis on a pris la route des concours, qu'on n'a jamais gagné d'ailleurs. On a fait des envois de démos d'albums dans, je pense... une douzaine de compagnies de disques. On a eu zéro retour de compagnies de disques. Pas gagné de concours, mais nous autres, l'adversité nous a toujours nourris. Puis encore, quand on en reçoit, ça a toujours été un élément de motivation. Puis ça a forgé notre caractère de groupe énormément.
Si tu as un, je vais te le prouver.
Ouais.
Que,
OK. Ouais, absolument.
Ça devient ça au final.
Ouais, vraiment. Puis souvent, les jeunes ou d'autres artistes plus jeunes vont nous demander des conseils ou... par où vous êtes passé, puis c'est quoi? Mais c'est l'entêtement. Il y en a pas. Les raccourcis dans la vie, je crois pas à ça. Le seul ingrédient qui va marcher, pas des fois, pas souvent, tout le temps, c'est le travail. T'sais. Ça va marcher tout le temps. Fait que fais-le. Cherche pas le comment le contourner. Travaille. c'est la seule chose qui marque. Donc, oui, par besoin de prouver aux détracteurs, puis de se le prouver à nous autres aussi.
Il y a 15 ans, c'était le lancement de l'album Pop Culture, le premier album de Caïn.
2004. Ouais.
Parle-moi de toi, la chanson qui a fait décoller le band sur les ondes radio. Quand ça arrive, un gros hit en partant, comment on gère ça?
Écoute,
20 ans, 20, ben 25, là, j'imagine, à l'époque.
Ouais.
On gère ça comment?
Les rêves changent. Hein? Tu as une carrière, tu rêves d'avoir un contrat de disque pour pouvoir faire la musique ensuite. Tu rêves de remplir une salle de gens qui viennent écouter tes chansons. Tu rêves d'entendre une de tes chansons sur les ondes. Moi, je m'en allais travailler à l'époque chez Music World, magasin de disques. Ironiquement, je vendais des disques. Puis j'arrêtais pas à chaque fois que j'allais travailler d'écouter. Je zappais les fréquences pour tomber sur Parle-moi de toi, qui était notre premier extrait. Et la première fois que j'ai tombé dessus, je m'en rappelle comme c'était hier, je travaillais au Music World, j'ai stationné mon auto sur le côté, j'ai sorti, je pleurais, je criais, je convaincu que les automobilistes qui sont passés à côté de moi ce jour-là, ils ont dit « On a vu quelqu'un en psychose sur le bord de la route. » Ils riaient, puis ils pleuraient, puis ils sautaient parce que je venais d'entendre ma chanson pour la première fois. C'est un des plus beaux moments. Puis après, ben, tes rêves continuent de changer. Tu rêves de... j'en ai réalisé un paquet de rêves dans ces 20 ans-là, dont de chanter avec tous les artistes qu'on a mis tantôt. Mais entendre mes chansons sur les ondes ou m'en faire parler, c'est pas quelque chose auquel je m'habitue, là. Je le savoure tout autant.
Et là, après ça, une chanson joue comme celle-là, on fait des spectacles, et là, pour une première fois, la foule chante les mots qu'on a écrits. Tu parlais d'émotion en l'entendant à la radio, mais ça, la première fois que les gens chantent les lignes que toi-même t'as écrites par cœur d'un bout à l'autre, tu vis ça comment?
C'est spécial. Puis on avait de la misère à y croire, en même temps, nous, on a commencé... Quand on a, sur le deuxième album, c'est vraiment là, avec Embarque ma belle, Mexico, toutes ces chansons-là, que ça a parti en fou. On était dans une tournée Gaspésie-Côte, dans la tournée du Rosec, le réseau des salles de l'Est du Québec.
Et la tournée que tout le monde veut faire, parce que le décor est beau en tabac. Le
décor est super beau, mais c'est toutes des petites salles où tu pars avec les caisses de guitare qui te frôlent. On était allés, tout le monde entassé dans une vanne, puis c'était parfait. Et on avait lancé Embarque ma belle ici, avant de partir, puis on est parti en tournée. Première salle, une vingtaine de personnes. Deuxième salle, une cinquantaine. Et la troisième salle, notre directeur de tournée nous attend dans le stationnement de l'hôtel avec un sourire plaqué sur son visage et nous dit « Les boys, à soir, c'est votre première salle pleine, de un. De deux, vous avez vendu 2000 albums cette semaine. » Et là, nous autres, on fait « Mais qu'est-ce qui se passe chez nous pendant qu'on est ici? Qu'est-ce que c'est? » Et là, on a su que ma belle était embarquée complètement et dans ces premières salles combles-là qui ont jamais arrêté, on a su que ben, les gens y a chanté avec ma belle durant les shows. C'était les premières fois qu'on se rendait compte de ça, là, okay, ils connaissent nos chansons. Puis ça a pris un point culminant sur les plaines d'Abraham, l'année où on a fait la fête nationale, où il y avait, je sais pas, 200 000 personnes qui criaient à tue-tête toutes ces chansons-là. Moi, je suis quelqu'un de très sensible, ça vient me chercher complètement. J'en parle encore avec le frisson.
Est-ce que tu parlais de rêves qu'on accomplit au fur et à mesure? Une Saint-Jean sur les plaines?
Ouais.
J'imagine que ça en est un. Ouais. Donné, quand on se rend compte que ça marche, on se dit, ben, ça se pourrait peut-être aller faire la Saint-Jean sur les plaines.
La Saint-Jean sur les plaines, mais autant que le défunt Spectrum dans le temps, ou le Métropolis qui est le MTLUS maintenant, où j'ai tellement vu d'idoles. J'étais allé voir des shows là, et là, on le remplissait comme deux soirs en ligne. Waouh, tu sais, je joue dans la salle de mes idoles ou aller prendre une bière avec Richard Desjardins, tu sais. Moi, c'est un de mes mentors complètement. Puis de parler de musique, c'est aussi important pour moi que les plaines ou en termes d'accomplissement.
Quel moment on réalise que ça vit en dehors de nous? Est-ce que c'est quand les gens chantent les chansons, justement? Que la musique, on a besoin d'être là pour que notre musique existe?
Ouais, c'est tout le monde qui te le rappelle tout le temps. Puis ton entourage aussi va changer. À un moment donné, moi, j'ai un peu abdiqué avec ce phénomène-là, dans le sens que je trouve qu'on a beaucoup, beaucoup trop d'attention, les artistes. Quand on en a pas assez, on s'invente un gala pour se donner des prix pour se trouver bon, là, puis, alors qu'on sauve pas de vie, tu sais. On parlait tantôt hors d'onde que les professeurs, à quel point c'est une vocation et un métier que j'admire. Les profs ont mon respect, mon admiration. Eux, ils mériteraient des galas, puis ils mériteraient de faire des entrevues, puis d'avoir des photos dans leur... Parce qu'ils travaillent, nous, on fait de la musique. Oui, la musique, on en a besoin, puis on rentre dans l'histoire des gens, mais ça reste une vie qui n'est pas nécessairement normale, parce que tu es nourri avec beaucoup, beaucoup de reconnaissance, puis peut-être trop même des fois, t'sais.
Est-ce que ça se gère bien, un succès à 25 ans, ou c'est difficile?
Ben nous, on a fait le rock'n'roll, on a fait les 100 coups, on en a rêvé tellement longtemps de faire cette vie-là. Quand ça a parti, il n'était pas question qu'on la fasse avec d'être raisonnable là-dedans. Là. On a fait la vie de party pendant plusieurs années, sans regret, sincèrement. Là. La vie qu'on rêvait de faire étant kid. Fait qu'on l'a géré en mode rock'n'roll pas mal.
Mais est-ce qu'à un moment, on frappe un mur? On se dit, OK, là, c'est assez.
Ouais. Ouais, on frappe un mur. Moi, j'ai eu ma fille à 22 ans. Elle, le rock'n'roll, puis les plaines, là, ça ne la dérange pas bien.
Elle veut papa à la maison.
Elle veut papa, puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Puis c'est la vraie vie, ça. Fait que,
elle était là au début, de 15
ans. Ma fille a 18 ans, fait qu'elle a pratiquement l'âge du groupe. T'sais. Fait que, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'être conséquent. Puis si, je me souviens, dans les pires souvenirs que j'ai, on fait un show, puis je regarde les chansons sur le setlist, puis je fais « OK, il en reste juste trois », tu sais. Pour pouvoir continuer à aller faire le party, à un moment donné, c'est ridicule. Faut que tu... Rendu là, j'ai fait « OK, là, je fais plus la musique pour les vraies raisons. »
C'est le show qui était rendu un motif pour le party.
Ouais. C'est rendu un travail, alors que j'ai tellement rêvé de faire ça. Fait que... Puis tes priorités sont pas dans le bon ordre. Quand t'es jeune, les ambitions trônent au sommet de ton échelle de priorité, alors qu'elles devraient être en dernier. Puis je le dis souvent, je fais des conférences ces derniers temps dans les écoles, puis je dis aux jeunes, c'est quoi selon vous qui est plus important dans la vie? Puis là, les jeunes répondent... Mes notes, mes amis, ma famille. Non, non, non. Même pas ta famille, c'est toi. Prends soin de toi, là, puis ta famille va aller mieux, puis tes amis aussi, puis ta carrière en dernier aussi. Tu sais. Fait que, quand j'ai eu 30 ans, j'ai sorti beaucoup de vices de ma vie. Et je me suis pris en main, je me suis mis en forme beaucoup physiquement. Pris soin de mon monde plus, de ma famille. Je me suis remis un peu les yeux devant les trous. Puis je vis maintenant depuis une couple d'années dans un bel équilibre.
Fais-tu le métier différemment depuis ce temps-là?
Oui, oui, complètement. Je peux
Eric
dire...
Eric aussi a changé complètement.
Complètement, oui. Eric est sobre depuis 4 ans et quelques pouces. Oui, là, la musique, le plaisir à faire la musique, le respect envers la musique, envers les gens qui nous permettent de le vivre. On veut être meilleur, on veut aller plus loin, on veut être mieux, dans notre peau de musicien puis de personne. Je pense que c'est... On a encore plus changé sur le plan personnel que musical. Fait que, oui, on fait les choses dans le meilleur ordre maintenant.
Et d'ailleurs, quand on vous suit en tournée ou quand on vous voit en show, il n'est pas rare que la famille n'est pas loin.
La famille est souvent là, surtout l'été.
Ce qui est une autre dynamique.
Oui. Ouais, avant, il ne serait pas venu.
C'était peut-être mieux pas.
C'est un autre genre de famille.
Ouais, c'est ça.
Mais
c'est une autre dynamique complètement.
Là. Oui, là, c'est les plus vieux enfants gardés plus jeunes. Les blondes viennent tout le temps au show. Vendre des t-shirts. On a plus l'air d'un cirque que d'un groupe de rock maintenant.
Petite roulotte,
Caïn. Ouais, mais c'est beau. On a rêvé de ça quand même dans notre vie de jeunesse, que nos familles nous viennent. Puis ça nourrit le sentiment de groupe. Moi, j'étais un gars de band, j'étais un gars de famille. C'est un rassemblement. Le souper d'avant-show avec les techniciens qui sont les mêmes depuis à peu près 12 ans dans le groupe, l'éclairagiste, sonorisateur. Avec les blondes, les enfants, les musiciens, pour moi, ça, c'est le point culminant d'un jour de show.
Et là, tu donnes aussi des ateliers, tu l'as dit tout à l'heure, dans les écoles. C'est arrivé comment, ça, cette idée-là?
C'est un accident, un ami prof qui m'avait demandé d'aller parler de mon métier dans sa classe, puis elle m'avait dit, viens parler de ton métier, les élèves vont te poser des questions. Mais elle avait 2 heures, elle me dit, faut que tu meubles 2 heures. Je lui dis, ben écoute, là, parler de mon métier pendant 2 heures, là, je peux en parler pendant 15 minutes. Fait que j'avais monté un atelier d'écriture pour meubler le 2 heures. Et donc, j'ai trippé complètement. J'ai écrit une chanson avec les jeunes, je leur explique un peu, je les fais travailler, développer leur créativité un petit peu. Puis à la fin de l'atelier, ils écrivent un refrain, puis on le met en musique spontanément. Et puis, j'ai vraiment eu du fun. Donc, peu après, je me suis signalé. Là, il y a plein d'écoles qui m'ont appelé. Donc, il y a une partie qui s'appelle... En fait, mon atelier s'appelle « Mettre des mots sur des mots », M-A-U-X. Et puis, il y a une partie qui est conférence où je raconte tout mon background d'élèves, d'étudiants, de père et éventuellement d'artiste. Je parle beaucoup justement d'entêtement, de passion, de travail. Et la deuxième partie, c'est un atelier d'écriture où on travaille ensemble sur une chanson, sur des exercices de créativité, tout ça. Puis je me promène les écoles, je rencontre plein d'ados qui m'écrivent des chansons qui me jettent sur le cul complètement. Là. Et où je constate aussi, je parlais tantôt du travail de prof, mais à quel point le travail de prof est une vocation. Donc c'est un super beau projet parallèlement à Caïn que j'ai, qui me fait voyager puis qui me fait travailler moi aussi d'une autre façon.
Qu'est-ce que ça t'apporte, ce contact-là avec ces jeunes-là qui sont pas nécessairement des fans de Caïn? Parce que généralement, en show, ce que tu crois, c'est des fans de Caïn. Forcément, ils ont acheté des tickets. Mais là, c'est autre chose.
Non, c'est autre chose. Puis je suis témoin de tellement de talent. les jeunes, le talent leur sort par les oreilles. C'est souvent ingrat, les adolescents, c'est une époque ingrate de notre vie. Ils n'ont pas toujours l'écoute nécessaire parce que les ados, là, si on pouvait les envoyer sur une île puis prendre des vacances, on le ferait une couple de fois par année. Mais ils ont tellement de choses à dire. Évidemment, ils ne nous le démontreront pas. Hein, ils nous couvriront pas de compliments, tout ça. Mais ils se prêtent au jeu. Ils m'écrivent des chansons vraiment surprenantes des fois. Ils vont se confier beaucoup. Je leur montre un crayon puis je leur dis ça, un crayon, ça peut vous sauver la vie si vous l'utilisez comme il faut. Ça peut vous faire gagner votre vie. Ça peut vous la sauver aussi. C'est important de vous en faire un allié pour justement mettre des mots sur des mots quand c'est le besoin. Puis les jeunes me le retournent vraiment, vraiment bien. C'est un super beau projet.
En thérapie, il y a justement beaucoup de psychologues qui conseillent l'écriture. Est-ce que ouais. tu l'as senti que des jeunes que aussitôt qu'ils ont eu le crayon,
ouais.
il y avait de quoi qui avait besoin de sortir puis ça juste...
Absolument. Il y a des profs qui m'ont dit on savait pas que le père, par exemple, de tel jeune, il a été en prison ou et qui se sont confiés à travers la chanson puis même jusqu'à en apprendre à leur propre professeur. Les mots, l'anonymat des mots permet ce genre de confidence.
Comment tu réagis quand tu les vois, les textes? Après?
C'est souvent après coup. J'entends parler que 2-3 semaines après avoir été à une telle école, j'entends parler que tel jeune s'est mis à écrire ou que ça l'avait percuté d'une façon ou d'une autre dans sa vie. Ça me touche à chaque fois. Puis c'est motivant. C'est quelque chose qui est un projet parallèle. T'sais, c'est de la musique que je fais d'abord et avant tout. Mais plus je le fais, plus je veux en faire.
Or donc, tantôt, tu m'as dit que dans ta conférence, tu dis que tu n'étais pas nécessairement la vedette de ton école plus jeune.
Absolument, oui.
Puis que c'est ce que tu veux aussi dire à ces jeunes-là.
Ouais.
Tu n'es pas obligé d'être le plus populaire. Pas obligé d'être que ça marche, tes
Non, tu n'es pas obligé d'être un monsieur cool, puis d'être le cœur arrière de l'école pour trouver ta passion, puis gagner ta vie de ta passion. Toi, encore une fois, je me répète, mais c'est l'huile de coude qui est la meilleure à mettre dans ce que tu veux faire. Puis moi, j'étais monsieur invisible à l'école. Si j'avais pu me fondre dans les craques du plancher, je l'aurais fait. Là. Vraiment, je pense que ça permet aux jeunes de constater qu'eux autres aussi sont capables de en travaillant, en fouillant, trouver leur passion. Puis c'est pas à cause que tu es introverti ou que tu es gêné quand tu es plus jeune que tu vas l'être dans ta vie. Donne-toi une chance, donne-toi un break aussi. C'est normal de trouver ça dur, l'adolescence. Ça l'est. Si tu t'épanouis, si tu parles, si tu te donnes une chance, tu vas y arriver, c'est certain. Mais sois juste conscient de ce que tu es, puis explore. T'sais.
Est-ce que le défi au départ, la première fois que tu l'as fait, c'était de les garder avec toi, de les garder intéressés, parce que c'est des ados.
Ah, c'est le défi.
T'en es parlé hors d'onde, 15, oui, oui. C'est peut-être pas la chose la plus cool pour eux autres.
Absolument.
Il y en a qui viennent un peu de reculons, parce que l'école est là, puis ça
où ils viennent
vraiment, parce qu'ils n'ont pas de cours pendant ce
moment-là. Ils viennent en mode party, exact. Fait que oui, puis je dis pas que c'est... Je capte attention tout le monde, ça serait pas honnête de dire que tous les jeunes écoutent religieusement ce que je leur dis. Et de là, le côté admiration totale envers les professeurs. Mais ça fait partie du défi que de se promener dans les écoles puis de leur proposer des trucs. C'est pas tout le monde qui a la langue française aussi en amour et en admiration. Là, il faut qu'ils écrivent, il faut qu'ils essaient d'écrire un refrain, il faut qu'ils se limitent à cette justesse-là. Mais je pense que généralement, dans l'ensemble, les jeunes sont quand même tellement talentueux que quand ils se donnent le moindrement d'effort, ils sont capables de grandes choses.
Si un crayon et une feuille de papier, ça peut faire gagner une vie ou sauver une vie, toi, ça t'a apporté quoi, écrire des chansons?
Ben, ça me fait gagner ma vie. C'est ce qui me nourrit le cœur encore. C'est la plus belle chose. C'est encore ce qui me fait sauter quand je réussis. Sauter de joie quand je réussis à écrire une chanson. Je suis encore un gamin parce que je suis encore capable de le faire. Puis ça me surprend encore de pouvoir le faire. C'est ce qui me touche le plus, c'est ce qui me fait rire, c'est ce qui me fait pleurer. D'écrire des mots, de vomir des mots sur du papier, c'est encore ce que j'aime faire le plus dans ce métier-là.
Mais est-ce que tu es dur avec toi-même quand tu écris?
Ouais.
Est-ce que tant que tu n'as pas la bonne phrase, tu picasses longtemps pour y arriver?
Ouais, je pense qu'on est tous dans ce milieu-là des clients difficiles envers nous-mêmes. En vieillissant là-dedans, tu veux toujours être meilleur. Fait qu'il y a de plus en plus de paramètres.
C'est ce dont tu es capable, tu veux l'atteindre ou le dépasser.
Oui, puis tu veux pas te répéter, tu veux être meilleur, mais tu veux que les gens qui t'aiment te suivent, se reconnaissent dans ta musique.
Renouveler sans perdre ceux qui suivent.
Exact. C'est un cliché, mais ça demeure toujours ça. Avec les années, ça s'amenuise, l'entonnoir, ça se rapetisse. Fait que tu as de moins en moins, pour sortir une meilleure chanson, tu as plus de travail à faire que quand tu as 22 ans, que tu écris à l'instinct, puis que tu amènes ta chanson à tes chums, puis que tu montes ça en claquant des doigts. Mais je pense que c'est bon signe. C'est signe qu'on vieillit de la bonne façon.
Il y a énormément de spectacles sur la route,
ouais.
Autant en musique, en humour, de plein de façons. Quand les gens dépensent leurs dollars loisirs sur Caen, un an d'avance, qu'ils achètent des billets de show, est-ce qu'on l'apprécie deux fois plus avec le temps? Est-ce qu'on réalise que c'est un privilège, que les gens nous choisissent?
Chaque rumeur d'une salle avant un show dans une loge va toujours m'en inspirer sur le côté du rideau de scène. Où, j'en reviens encore pas. Quand j'étais jeune, le premier show que j'étais allé voir, c'est un spectacle de Daniel Lemire avec mes parents. Et ce qui m'avait marqué, c'était dans la file d'entrée. On est arrivé à la salle de spectacle et je voyais le stationnement plein d'autos. Et là, j'étais comme « wow ». Et là, on était entré, il y avait une grosse file de personnes qui attendaient au guichet pour rentrer dans la salle. Et j'avais dit à mes parents, « tout ce monde-là vient voir une personne ». Et moi, j'avais comme 8, 9 ans, 10 ans. Là. Ils ont pris toute leur soirée. Là, puis toute cette gang-là, cette 1000 personnes-là, ils viennent voir une personne. Ils doivent capoter. J'avais dit ça à mes parents. C'est tout pour lui qui sont là. Et j'ai encore ce sentiment-là quand je le constate pour notre musique. J'en reviens encore pas de ça. Je trouve ça encore magique. Les gens, un soir, allaient voir un show. Oui, tu payes la gardienne, tu vas souper, tu passes ta soirée. Des fois, c'est dans la semaine, tu travailles le lendemain. Wow, c'est encore wow, t'sais.
Et de savoir qu'il y a des gens qui sont là depuis le jour 1, qui étaient là au premier album et qui sont là 20 ans plus tard, ça te fait quoi?
Ça me touche. Nous autres, on est arrivé dans les dernières bonnes années de vente d'albums physiques. Puis on a, je pense, fidélisé beaucoup de gens à travers ces années-là qui ont grandi avec notre musique, qui ont vieilli avec notre musique.
Qui ont des enfants maintenant.
Qui amènent leurs enfants dans les tournées, les festivals encore plus. On voit les enfants que les parents, la gang de boys qui viennent prendre un coup en écoutant Caen, ou les filles, ou les familles, les grands-parents. C'est ce qui nous rend le plus fiers.
Si on veut vous suivre sur le web, il y a tout ça.
Facebook, on est très actif, sinon caen.ca. Puis podcast, à partir de janvier, à l'établi Brasserie Urbaine 29.
Avec François Jean et Jean-François Dubé.
Exactement.
Steve, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Toujours un plaisir, Luc.
Toujours le fun. Un gros merci.
Yes.